This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Violence sexuelle dans le sport, l'affaire Régis de Camaret, épisode 2. Isabelle de Mongeau a marqué le tennis dans les années 80 et 90. Cette petite prodige aux yeux clairs, cheveux blonds coupés au carré, toujours retenue par un bandana noué autour de son front, devient championne de France en 1989 et 35e mondiale. Mais à l'ombre des cours, elle aurait subi les viols répétés de son entraîneur Régis de Camaret depuis ses 14 ans. Jusqu'au jour où elle lui tient tête et se libère de son emprise. Bien des années plus tard, Isabelle va découvrir qu'elle est loin d'être la seule victime de cet homme. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Voilà 9 ans que Régis de Camaret dicte la vie d'Isabelle. Car il faut bien comprendre une chose dans la mécanique d'un manipulateur pervers. C'est lui qui tire les ficelles de son pantin comme bon lui semble. L'entraîneur d'Isabelle lui a interdit toute distraction de son âge. Pas de sortie dans les bars et boîtes de nuit de Saint-Tropez, pourtant si réputée. Pas de flirt, aucun autre sport. Rien qui pourrait la détourner de son bourreau. Hormis le tennis, Isabelle n'a donc rien dans sa vie. Et elle s'est persuadée que tout cela est normal. C'est le revers de la médaille, comme les viols qu'elle subit plusieurs fois par semaine dans le local à bal, sur des parkings d'autoroute, dans des chambres d'hôtel. Lorsqu'elle tente péniblement de se refuser à son coach, la sanction tombe. Il l'ignore et ne l'entraîne plus. Isabelle a maintenant 23 ans. Et depuis quelque temps, son corps et son mental commencent à la lâcher. À chaque match, elle donne l'impression de se saborder et de laisser filer la victoire.
La sensation que Isabelle de Mongeau lève un peu la balle pour récupérer, Patrice.
Oui, elle a eu par moments mal aux jambes, elle l'a dit après la partie, comme si elle avait la sensation d'être un petit peu juste physiquement, alors qu'avec Régis de Camaret et Nathalie Tauzia, elle s'était parfaitement préparée pour ses internationaux.
Elle est replacée, elle y va. Là, elle joue très haut pour se repositionner au milieu du terrain. Et malheureusement, c'est Isabelle qui fait une faute, probablement due à l'essoufflement et à la fatigue, hein, Patrice.
À la fatigue, on le voit très bien, le bras ne parvient plus à frapper la balle à 100%.
Isabelle se sent de plus en plus bridée par son entraîneur qui l'enferme dans un jeu qui n'est plus le sien. Les parents de la jeune femme sentent bien que quelque chose cloche. Alors pour la première fois depuis ses débuts au tennis, ils vont eux aussi contourner les diktats du coach et en cachette, autoriser leur fille à aller voir une masseuse pour l'aider à se détendre. Elle s'appelle Caroline. En plus des massages, elle propose à Isabelle de l'initier au yoga. Pour la joueuse de tennis, c'est une délivrance, à tel point qu'elle va pour la première fois révéler son terrible secret à Caroline. Cette dernière va l'aider à se libérer enfin de son entraîneur. 31 mai 1989. Hôtel Concorde Lafayette, porte-maillot, à Paris. La soirée est encore chaude dans la capitale. Après avoir gagné contre la joueuse Mercedes Paz, la veille au tournoi de Roland-Garros, Isabelle a passé sa journée à s'entraîner, bien décidée à remporter son match contre l'Espagnole Arantxa Sánchez le lendemain. Alors qu'elle s'apprête à se mettre au lit, 3 coups à la porte. C'est lui, comme d'habitude. « Isa, ouvre-moi », souffle-t-il. Isabelle ne bouge plus. Elle est tétanisée. Elle sait qu'elle doit résister. Elle va appliquer ce que lui a appris Caroline, sa prof de yoga. Se mettre dans une bulle et ignorer son agresseur. « Isa, ouvre-moi, je vais te faire du bien. » Mais ce soir-là, malgré l'insistance des coups sur la porte, les supplications, Isabelle, apeurée mais déterminée, ne cède pas. Régis de Camaret ne va plus jamais la toucher. Isabelle de Mongeau finira par quitter son entraîneur. Le club démarre et Saint-Tropez. Elle va rapidement retrouver deux nouveaux coachs pour l'accompagner dans ses victoires. Deux mois après l'épisode de l'Hôtel Concorde, elle devient triple championne de France. Mais il est impossible d'effacer 9 ans d'horreur. Février 2005. 20 ans se sont écoulés depuis la fin de l'emprise. Isabelle de Mongeau est devenue à son tour entraîneur de tennis. Elle a monté son club avec la femme qui partage désormais sa vie. Mais des problèmes de santé la gênent de plus en plus dans son travail. À 38 ans, elle se décide à prendre rendez-vous avec un spécialiste. En l'auscultant, le médecin devine l'horreur vécue par sa patiente durant sa jeunesse. Les symptômes d'Isabelle, il les a déjà vus sur d'autres victimes d'abus sexuels. Alors, pour la troisième fois de sa vie, après sa prof de yoga et sa psy qui la suit depuis des années, Isabelle raconte tout. Le médecin l'exhorte à porter plainte contre son agresseur, car il pense qu'elle n'est pas la seule victime de Régis de Camaret. Isabelle est prête, enfin. Elle contacte une avocate, mais le verdict est sans appel. Les viols qu'elle dénonce sont prescrits, car à compter de ses 18 ans, une victime a 20 ans pour porter plainte contre son agresseur. Si Isabelle avait réagi 3 mois plus tôt, sa plainte aurait été recevable. Pour l'ancienne championne de tennis, c'est la double peine. Non seulement son corps est meurtri à jamais, mais en plus, son agresseur, aux yeux de la loi, est devenu intouchable. Isabelle refuse d'en rester là. Comme lui a suggéré son médecin, Régis de Camaret a probablement dû faire d'autres victimes. Il faut qu'elle les retrouve, et surtout des plus jeunes, dont les viols pourraient ne pas encore être prescrits. Isabelle se lance alors dans de grandes recherches pendant des mois. Et elle retrouve d'autres victimes de l'entraîneur du Club des Mares. Écoutez le témoignage poignant de Marjolaine, qui serait la première victime de Régis de Camaret. Elle avait 11 ans au moment des faits. Je l'avais interviewée en 2012, toujours pour l'émission Histoire en série sur France 2.
J'avais 11 ans, ouais, j'étais jeune et je connaissais absolument rien à la sexualité. J'ai été saisie en fait. C'était comme un basculement parce que je n'ai pas compris du tout ce qui m'arrivait. J'ai pas compris pourquoi il était entré dans les vestiaires. J'ai pas compris pourquoi il a fermé la porte et j'ai pas compris ce qui m'arrivait après. J'ai instantanément voulu mourir. Je voulais disparaître. Je dis souvent en fait, c'est la meilleure façon de l'exprimer, que j'ai quitté mon corps, j'ai habité ma tête.
Au total, Isabelle a retrouvé 4 victimes. Toutes racontent le même enfer. Certaines habitaient chez Régis de Camaret, au mal nommé le refuge, et les violences avaient lieu la nuit, dans leur lit. Mais tous les faits, comme pour Isabelle, sont prescrits. Une énorme colère gronde au plus profond d'elle-même. Après s'être tue pendant 20 ans, elle veut à présent que tout le monde sache, que cela cesse et que plus jamais des enfants n'aient à subir le même sort. Quoi qu'il lui en coûte, elle ira jusqu'au bout pour faire condamner son ancien entraîneur, quitte à se mettre de nombreuses personnes à dos. Car à Saint-Tropez, il est resté pour tous un héros local, un faiseur de championnes. Au sein de sa propre famille, les réactions sont déroutantes. Si le père d'Isabelle est dans la peine et la colère, sa mère a honte et a peur de l'opprobre que l'on pourrait jeter sur sa famille. Et sur elle, cette mère défaillante qui n'aurait rien vu et qui aurait jeté son enfant dans la gueule du loup. Pour comprendre la réaction de certains parents, écoutez la suite du témoignage de Marjolaine.
J'ai essayé d'en parler à ma mère, mais je crois que je ne savais même pas de quoi je devais lui parler. J'ai essayé de lui dire qu'il s'était passé quelque chose, qu'il était rentré dans les vestiaires. Et elle m'a dit « t'es sûre ?» Et en fait, en disant « t'es sûre ?», j'ai vu à quel point c'était grave. J'imaginais que mon père allait lui casser la gueule et que j'allais revivre en fait un moment de honte. Donc quand elle m'a demandé « est-ce que c'est vrai ?», j'ai dit non. Et donc après, j'ai vécu avec ce gros secret et j'avais l'impression effectivement que personne ne pouvait me croire. C'était indicible, quoi. Et de toute façon, je l'ai gommé de ma mémoire. J'ai cassé ma mémoire pour survivre.
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Isabelle poursuit sa quête et sur sa route, elle va faire la connaissance d'un gendarme, le commandant Jean-Marc Delfaux, à Draguignan. L'homme va devenir un soutien sans faille et tout mettre en œuvre pour retrouver d'autres victimes du prédateur sexuel. Après des mois d'enquête, 25 autres anciennes joueuses reconnaissent avoir été violées par Régis de Camaret. Parmi elles, Stéphanie et Karine. Elles sont plus jeunes que les autres, et avec leurs deux plaintes, Camaret pourrait être arrêté et jugé. Stéphanie a habité au refuge chez son entraîneur. Écoutez son témoignage en 2012 pour Histoire en série sur France 2.
Après l'extinction des feux, à 22h, moi c'est là qui venait en passant par la fenêtre. Donc. Au début, il est gentil, attentionné, plutôt comme un père, quoi. Après, il va commencer à se rapprocher, voilà, il va essayer d'embrasser. Bah, si on réagit pas, après, bah, il va plus loin, petit à petit. Après, il caresse. On éprouve du dégoût, mais bon, après, de toute façon, en même temps, il se mettait sur moi, il faisait son poids. Moi, je faisais 45 kilos, donc même que j'aurais voulu me débattre, j'aurais pas pu faire grand-chose. Hein.
Mais Karine et Stéphanie ne veulent pas dénoncer leur agresseur. Elles n'ont jamais rien dit à leurs proches. Et puis, elles n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Malgré la réticence de ces deux femmes à porter plainte, face au nombre important de témoignages recueillis contre Régis de Camaret, le procureur accepte d'ouvrir une information judiciaire pour viol et abus sexuels sur mineurs. 22 février 2007. Cela fait 2 ans qu'Isabelle de Mongeau a dénoncé son agresseur. Régis de Camaret, 65 ans, a quitté depuis bien longtemps la chaleur de la Côte d'Azur pour les Embruns des Landes à Cabreton. Avec Nathalie Tosia, la fameuse amie de jeunesse d'Isabelle, il a remonté un club de tennis où il continue d'enseigner à des jeunes. Alors qu'il donne un cours, la gendarmerie débarque dans son club.
Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 22 février. L'entraîneur de tennis Régis de Camaret a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur. Il a été écroué à Draguignan. Il aurait abusé d'une dizaine de jeunes filles dans le cadre de son activité d'entraîneur à la fin des années 80.
Son arrestation fait l'ouverture de tous les journaux, comme le JT de France 2 que l'on vient d'entendre. Depuis sa cellule, l'homme nie tout en bloc et accuse Isabelle de Mongeau d'avoir monté une cabale contre lui pour se venger de ses mauvais résultats sportifs. Mais Isabelle n'en a que faire. Elle savoure sa première victoire contre son ancien bourreau. Entre-temps, Stéphanie et Karine ont fini par porter plainte à leur tour contre leur ancien coach. Tous en sont sûrs, il sera bientôt traduit devant la justice. Pourtant, 2 ans plus tard, contre toute attente, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rend sa décision. Un non-lieu, faute d'éléments suffisants. Les faits de viol des deux plus jeunes femmes ont été requalifiés en simple agression sexuelle. Les faits sont donc de fait prescrits. Pour Isabelle, c'est un énième coup dur. Elle témoigne dans le 20h de TF1 le 7 décembre 2019.
Moi, je suis vraiment totalement effondrée de cette décision. On se sent totalement bafouée. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont en pleine souffrance et qui ne comprennent pas, par rapport à un dossier qui était quand même lourd et conséquent, qu'on se retrouve aujourd'hui avec un non-lieu.
Le contrôle judiciaire de Régis de Camaret a donc été levé et l'homme a repris tranquillement sa vie d'entraîneur de tennis à Cabreton auprès de jeunes sportifs. Mais l'affaire ne va pas en rester là. Je suis avec Greg Descamps, professeur à l'Université de Bordeaux, psychologue du sport, enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux et spécialiste de la question des abus sexuels dans les sports. Alors, Greg, nous sommes fin 2009, on vient de l'entendre, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne renvoie pas Camaret devant les assises, requalifiant les viols des deux plus jeunes joueuses en simple agression sexuelle, la prescription n'étant que de 10 ans en la matière. Qu'est-ce que cela représente pour les victimes après tout ce chemin parcouru ?
Alors, c'est vrai que ce processus judiciaire, c'est quelque chose de très délicat. Moi, je dirais qu'en matière d'accompagnement juridique des victimes, il faut s'assurer que les victimes de violences sexuelles soient informées du fait que les termes qui vont être employés tout au long de la procédure, en fait, ces termes ne correspondent que rarement à la réalité des faits qu'elles ont véritablement subis. Concrètement, les termes, les qualificatifs, ils correspondent aux éléments dont disposent les juges ou les procureurs pour porter l'affaire devant la justice. Et j'ai envie de dire aux victimes, ça ne doit surtout pas être interprété comme une négation de ce qu'elles ont vécu. C'est souvent très dur à vivre pour les victimes parce qu'elles y sont peu préparées par leurs avocats, tout simplement.
À chaque fois qu'une victime parle des années après, elle entend les mêmes reproches. Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt ? Pourquoi tu ne t'es pas défendue ? Quelles sont les raisons de ce silence chez les victimes de violences sexuelles ? Une fois pour toutes, que les gens comprennent.
Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, par rapport à ce qui se passe au moment de l'agression, eh bien, on dit que l'état dans lequel se retrouvent les personnes victimes de violences, c'est un état dit de sidération. Habituellement, dans un certain nombre de registres, lorsqu'on est confronté à des situations difficiles, anxiogènes, effrayantes, eh bien, la peur amène l'individu à fuir. Mais dans le cas de ces situations qui sont émotionnellement très intenses et qui font d'une certaine façon effraction dans le psychisme, eh bien, la soudaineté et la contrainte de ces agressions va faire que les victimes vont être dans un état qui les empêche totalement de fuir. Et c'est ça, la sidération. Elles ne bougent pas. Elles ne sont pas en capacité de faire autre chose. Et c'est souvent, d'ailleurs, un argument qui est utilisé par les agresseurs, a posteriori, pour dire, écoutez, si la victime n'était pas consentante, elle se serait défendue ou elle aurait fui. Eh ben non. Elle était dans un état de sidération. Et par la suite, eh bien, va se mettre en place le vécu traumatique qui va être consécutif à l'agression. Et là, les répercussions émotionnelles de l'agression sont telles que la victime va tout faire pour dissimuler l'agissement dans sa tête ou dans son corps et essayer de ne plus y penser. Elles y arrivent parfois pendant des années, d'ailleurs.
Hein, beaucoup disent sortir de leur corps.
Ça correspond d'une certaine façon à ce qu'on appelle un processus de dissociation. Hein. C'est une façon de se protéger soi-même. Hein. Et puis parfois, le psychotraumatisme fait que les victimes sont dans l'incapacité de se remémorer exactement ce qu'elles ont vécu. Et ça arrive dans d'autres contextes, hein, d'ailleurs. Si vous prenez une forme d'amnésie psychogène passagère de ce genre. Et lorsqu'on est dans le flou, eh bien, on en vient parfois à se convaincre que ça n'a peut-être pas existé ou peut-être que ça n'a pas existé tel qu'on s'en souvient. Et on va se reconstruire un peu les choses. Et tout ça ne facilite pas le fait qu'on en parle.
Pour terminer, Greg, au moment de l'interpellation de Régis de Camaret, Isabelle de Mongeau sort son livre, on est en 2007, Service volé chez Michel Lafond, et elle reçoit de nombreux témoignages d'autres victimes dans d'autres sports. Isabelle devient une sorte de lanceuse d'alerte, admirée par certains, mais qui en dérange d'autres. Pourquoi ?
Eh bien, parmi les raisons du silence, il y a chez les victimes, le sentiment d'être un cas isolé. Si on pense qu'on est vraiment la seule personne à être dans ce cas de figure-là, ça réduit la probabilité pour qu'on en parle. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une autre victime parle ? Eh bien, ça peut constituer un déclencheur chez les autres. Et c'est ça l'aspect aidant et facilitant. Et alors, si le fait que des victimes prennent la parole et publient des ouvrages dérange, c'est que les institutions, qu'elles soient sportives, mais également scolaires, artistiques, médiatiques, religieuses, etc., se disent que la démultiplication des cas, ça va générer inévitablement des enquêtes dans le cadre desquelles il va falloir essayer d'identifier s'il y a des responsables, s'il y a des personnes qui savaient, qui n'ont rien fait pour protéger, etc. Donc ça dérange. Donc tant mieux, tant mieux. Si ça dérange, tant mieux. Si ça fait trembler, si je dis tant mieux, c'est parce que les nuisibles qui protègent les agresseurs, eh bien, d'une certaine façon, ils finiront par tomber. Et dans le futur, au moins, eh bien, on peut espérer qu'on ne cherchera plus à dissimuler ces agissements lorsqu'ils se produisent.
Merci beaucoup, Greg Descamps. On vous retrouve à la fin du troisième épisode. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, psychologue du sport, enseignant-chercheur à l'université et spécialiste de la question des abus sexuels dans le sport. Merci, Greg. Pour Isabelle et les autres victimes de Régis de Camaret, cette fin d'année 2009 est d'une terrible tristesse. Le non-lieu contre leur présumé agresseur, décidé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les contraint à nouveau au silence. Circulez avec votre souffrance, elle n'a pas existé. C'est cela qu'elles comprennent avec cette décision de justice. De son côté, Régis de Camaret, blanchi de tout soupçon, savoure ce retour à la vie normale dans les Landes. Pourtant, un nouveau rebondissement de l'affaire va avoir lieu et la honte va bientôt, enfin, changer de camp. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette affaire. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés, sur Instagram ou sur Twitter. Une petite précision, les 4 épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute.